Le moment Gestalt. Gestaltmoment.
Bonjour à tous, on est sur Radio Campus Paris. C'est la dernière émission de la saison de Gestalt ce soir. On va reprendre ça en septembre prochain, mais pour l'instant, voilà, on est dans cette journée un peu caniculaire pour se rassembler autour d'un sujet qui me porte à cœur et avec des invités qui sont concernés par la question. Donc je suis très heureuse d'être en compagnie aujourd'hui de Marie, Caroline et Gaëtan. Bonjour tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Joseph à la réalisation. Aujourd'hui, on va se demander comment on peut mettre en place des projets culturels et artistiques avec des publics qui viennent notamment du champ médical. Alors, comment on fait quand on est artiste, quand on est dans un accompagnement de projets dans le milieu culturel ou encore quand on est dans le cadre de la recherche universitaire. On va aussi se demander pendant cette heure-là ce que c'est que la notion d'inclusion au sein même des créations artistiques, en allant jusqu'aux conditions d'accueil des espaces qui reçoivent ces créations-là. On va parler d'accessibilité culturelle, mais pas uniquement en utilisant des grands mots. On va juste parler de projets inclusifs, ouverts, avec donc Marie, Caroline et Gaëtan. Donc à nouveau, merci d'être ici aujourd'hui. Ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est de chacun vous présenter avec les mots que vous avez envie. On va commencer par Gaëtan, si ça ne te dérange pas.
Non, ça ne me dérange pas. Déjà, merci. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Gaëtan Brun-Picard, je suis chorégraphe et artiste transdisciplinaire. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Work avec Lily Garcia-Gomez. On est en résidence permanente au 6B, un tiers-lieu culturel à Saint-Denis. Et on a une pratique qui se divise en gros en deux axes. Une partie qui est peut-être plus traditionnelle, qui est celle de la performance ou du spectacle vivant, tel qu'on peut le voir dans une boîte noire ou une boîte blanche d'ailleurs. Et une deuxième action qui s'articule autour de résidences qu'on mène au long cours. Je crois que c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, dans des lieux spécifiques, avec des groupes spécifiques. Donc quand je dis spécifique, ça veut dire des personnes qui ont une histoire particulière et qu'il s'agit pour nous de venir rencontrer et potentiellement révéler avec le temps. Voilà, j'en dis pas plus.
Mystère. Marie avec nous.
Oui,
bonjour.
Merci beaucoup pour l'invitation et ravie de découvrir Radio Campus Paris. Moi c'est Marie Descure, je m'occupe de la radio Station, qui est le projet radiophonique de la station Gare des Mines, une salle de concert à la Porte d'Aubervilliers. Pour cette radio, je m'occupe de la coordination de la radio, c'est-à-dire que je vais faire de la curation de contenu, je vais gérer les services civiques, les stagiaires, je vais m'occuper des bénévoles. Je produis une émission de radio sur Station qui s'appelle Marie la Nuit, qui est soit une mixtape, soit un entretien avec une artiste. Ou un label, ou des personnes qui travaillent une œuvre ayant un rapport avec le sonore. Je produis aussi des documentaires sonores, et je fais des ateliers, des formations. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui.
Super, merci Marie. Et donc on a Caroline avec nous également. Salut Caroline.
Salut Claire, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Caroline Perrault, et je suis éditrice de livres d'art. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai monté ma maison d'édition qui se concentre en particulier sur la photographie et l'art urbain contemporain. Et ces dernières années, j'ai eu envie de m'investir dans une réflexion sur les pratiques artistiques parce que par l'édition, j'ai pu me rendre compte de certaines évolutions et surtout de l'évolution de mes intérêts aussi par rapport aux artistes avec qui je fais de l'édition. Et cela m'a amené à commencer une recherche à l'Université Paris 8 sur les rapports entre l'art et le soin. Et à m'intéresser à des projets artistiques qui se consacrent à cette thématique.
Alors, merci beaucoup. Effectivement, dans chacun de vos discours, on a cette chose en commun qui est de proposer et de regarder la rencontre à travers à la fois l'accompagnement, mais aussi la recherche de ce que l'autre va nous apporter. J'ai une question qui va être ouverte à vous trois, et c'est selon la personne qui ressent l'envie d'exprimer son ressenti, sa première expérience. Qu'est-ce qui a déclenché que ce soit pour l'un de vous trois, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de travailler sur des projets artistiques qui sont en dehors du cadre qu'on pourrait se représenter comme purement artistique avec une équipe qui est dans une institution culturelle, comme on peut l'imaginer. Comment vous est venue l'envie de faire ça en dehors avec d'autres personnes dans des institutions qu'on peut nommer institutions médicales notamment? Est-ce que tu as eu ce déclic, par exemple?
Oui, attends, oui, oui. Peut-être parler d'abord du collectif et sa création, parce que je crois que c'est un peu ce qui fonde ce désir-là, d'aller travailler avec des personnes ou des lieux qui ne sont pas pour les lieux destinés à recevoir de l'art ou pour des personnes à proximité de celui-là. Le collectif, il s'est monté en 2014. Et en fait, tout de suite, on s'est dit qu'on avait envie d'essayer de faire une plateforme plutôt qu'une énième compagnie. On avait déjà tous participé à plein de projets artistiques. Et l'envie, c'était vraiment de créer un outil de travail qui permette à nous de produire des objets un peu singuliers, qui sortaient un peu du champ traditionnel, justement, comme tu l'as dit, et à d'autres aussi de pouvoir le faire. Et donc, au fil des premières expériences, on a commencé par un travail au Lila, qui s'appelait Pléiade, et qui était à la croisée d'une sorte d'enquête presque anthropologique, j'ai envie de dire, où on allait à la rencontre des habitants et on collectait justement du sonore, des témoignages, et on a inventé une sorte de balade sonore sur ce lieu-là, qui était quand même un espace. Au Lila, c'était ces grandes tours blanches qu'on peut voir derrière la tour de télévision, qui sont assez particuliers, qui concentrent à peu près, je crois, 10% de la population des Lilas, et en fait n'ont aucun endroit de croisement de la population. Enfin, il n'y a pas de place publique, il n'y a que des parkings, c'est assez étrange. Et les gens vivent là sans se voir, sans se rencontrer, et on avait envie d'essayer de sortir de la boîte noire et de faire quelque chose là. Qu'on a essayé, on a produit des affiches, on a construit une sorte de petite boîte qui permettait aux gens de venir laisser un témoignage, et ensuite donc cette balade sonore. Et après ça, on est un peu parti sur plutôt des ateliers auxquels on a été invité. Pour le projet 57 Mémosine, dont on va un petit peu plus parler, je pense, parce que c'est celui-ci qui croise art et soins. On a été invité par les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, une rencontre internationale, à donner un atelier à des personnes âgées, un groupe de femmes âgées, en fait. Et pour moi, ça a été un peu un choc. En fait, j'ai rencontré ces gens, ces femmes, qui m'ont témoigné. Je ne savais pas du tout par quoi j'allais commencer en les rencontrant de prime abord. Et en fait, elles m'ont témoigné des vies assez étonnantes. Et en sortie de ça, on a échangé avec Lily. Et de là, on s'est dit, non, mais en fait, il y a quelque chose de fort à faire. De fort à faire avec cette population-là. Et progressivement, de se dire, mais pourquoi ne pas aller vraiment dans des espaces où les gens sont à distance, en fait. Et là, des EHPAD, en fait, voilà. Je commencerai par là.
Donc, est-ce qu'il y a eu, d'une certaine manière, et justement, je te poserai aussi la question, Marie, d'un mouvement qui allait vers les autres de votre part, c'est-à-dire, est-ce qu'il a fallu que vous alliez aussi à la rencontre des interlocuteurs qui travaillent dans les institutions pour créer ces projets-là? Comment ça se passe quand on veut créer un projet en dehors du cadre dans lequel vous travaillez, dans l'institution culturelle, pour aller vers des institutions qui peuvent être médicales? Comment vous faites?
C'est là où le partenaire culturel est important, en fait. Au départ, dans la genèse de 57 Mnemosyne, on a vraiment eu ce partenariat avec les rencontres chorégraphiques qui nous ont dit, bah voilà, nous on a des groupes de personnes avec qui on a l'habitude de travailler, on avait déjà une histoire avec eux, je dis avec les rencontres, et ils nous ont proposé d'imaginer quelque chose, et nous on avait déjà un petit peu en tête cette idée de travailler avec des personnes âgées à partir de ce dont j'ai témoigné. Donc ça s'est fait un petit peu dans cette entre-chose, quoi, qui n'était pas non plus une volonté première de nous de monter un projet global. Et d'ailleurs, très sincèrement, nous quand on a lancé ce projet, on l'a fait sans savoir que ça allait durer 5 ans. On est parti pour un an Et voilà. Et en fait, ça s'est fait parce que notre méthode aussi, elle reprend ça de manière un peu empirique. En fait, on a construit progressivement au contact des personnes, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais du corps soignant et des partenaires culturels, un projet sur mesure un petit peu, voilà.
D'accord. Marie, effectivement, tu fais beaucoup de choses. Tu es aussi membre d'ArtLab, qui est un programme à la formation aux outils numériques. Tu accompagnes des associations dans le cadre radiophonique, ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas uniquement, effectivement, des interlocuteurs qui sont forcément issus du champ du médical. On peut citer Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Il y a également Petit Bain, Carton Plein. Tu accompagnes également Coucou et l'IME Alternance 75. Ce sont forcément un petit peu plus ces interlocuteurs-là qui m'intéressent. Est-ce que tu pourrais nous dire, comme Gaëtan a pu nous l'expliquer, comment ces rencontres se font quand justement il y a une création de projet ensemble où on commence à zéro?
Il faudrait peut-être que je reparte aussi de comment j'en suis venue à animer des ateliers, des formations, etc. Parce que j'ai pas eu de déclic. C'est plutôt quelque chose qui est venu à moi en 2020, quand j'ai commencé à suivre une formation pour devenir documentariste sonore. Olivier de La Station, qui faisait partie du programme triennal ArtLab, m'avait dit « Mais tu es en train de te former à faire du documentaire, est-ce que toi aussi tu voudrais pas former à rebours des gens ?» Et je crois qu'au début, s'il ne m'avait pas proposé, je ne me serais jamais dit que j'étais légitime à le faire. Donc on est un peu venu me chercher. Et c'est vraiment un peu sur son impulsion qu'il y a des projets qui ont commencé à se monter au fur et à mesure, de fil en aiguille. Et c'est comme ça que la rencontre avec Carton Plein et Vire Vivant s'est faite. Le lien avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée s'est tissé dans le territoire de la cité Charles Hermite dans le 18e à Paris, qui est une cité qui est de l'autre côté du périph, juste en face de la station. Mmh. Et à force de créer ces projets-là, d'ateliers, de mener des choses, on y prend goût. On se sent de plus en plus, je ne sais pas si on se sent légitime, mais il y a un truc qui se délite à cet endroit-là. Et à la station, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en résidence. Il y a notamment donc Station qui est en résidence, mais il y a aussi le Coucou Crew, qui est une association d'accueil de jour de jeunes mineurs en situation d'exil. Et il y avait Brut Pop jusqu'à récemment. Nos locaux, nos bureaux étaient vraiment en fait dans le même couloir, donc on se croisait très régulièrement et les liens se sont faits comme ça lors d'échanges informels. Brut Pop travaille le son, la radio travaille le son, pourquoi on ferait pas des chocs à pic ensemble? Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et l'IME Alternance 75, qui est aujourd'hui la maison personnage Alternance Paris, depuis assez peu, c'est un contact de Antoine de Brut Pop qui nous a dit ah, il y a ce psy qui a monté un atelier radio qui pourrait être trop motivé pour faire quelque chose avec vous, prenez contact. En général, les ateliers radio se montent toujours avec un partenaire, quelqu'un qui est ancré dans un territoire. C'est jamais quelque chose qu'on sort du chapeau, soit ça répond à une envie, un besoin, soit ça ne se fait pas, en fait, je crois.
Pardon, je me permets, mais c'est très, très similaire en fait pour moi. C'est-à-dire que du coup, on peut avoir le désir de travailler sur un sujet. Typiquement, nous, c'était la mémoire. Et on avait très envie de travailler sur ça. Et on s'est dit, mais tiens, en fait, des personnes qui sont mises à distance de la société parce que trop âgées ou trop malades, qui n'ont plus le choix de donner leur avis, comment ils font groupe. La mémoire, c'est l'histoire. L'histoire, c'est le groupe. Enfin, voilà, tout se lit. Et du coup, on avait très envie d'aller à leur rencontre pour leur poser ces questions-là, simplement. Mais ça, c'était une chose, un désir. Mais le faire, le réaliser, pouvoir le mettre en place, ça demande un partenariat qui a quand même des liens très forts et tissés sur le territoire.
Caroline, toi qui justement es intéressée à observer la manière dont on peut construire des rencontres entre professionnels de soins et projets culturels et artistiques, est-ce que, au-delà de ces expériences et témoignages personnels, tu constates justement, effectivement, tu souhaites rebondir sur des choses que Marie et Gaëtan viennent de dire, sur le fait qu'il faut quand même qu'il y ait un ancrage quelque part? Est-ce que tu as remarqué qu'il faut qu'il y ait une rencontre, des choses spécifiques liées à la création de ce projet? Parce que là, on part vraiment de zéro pour commencer cette émission. Comment créer?
Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces projets-là, je ne savais pas trop par quel bout les attraper parce que c'est des projets qui en réalité sont extrêmement complexes. Et on m'a guidée pour essayer un peu de me libérer dans cette recherche. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait finalement, c'était la question de la relation qui était au cœur du projet. Mais la relation, elle commence avant même qu'on soit dans le centre de soins ou dans le centre médico-social. C'est déjà les artistes qui rencontrent effectivement les partenaires qui vont les amener sur ces nouveaux territoires de travail. Ensuite, c'est les rencontres avec les équipes médicales. Et du coup, dans mon cas d'éditrice, ça a été la rencontre avec ces artistes qui travaillent sur ces sujets-là. Et en fait, on est juste dans une chaîne de liens et des liens que je trouve très particuliers parce qu'en fait, c'est des affinités qui se mettent en place et qui permettent à des relations de confiance d'aller déplacer des limites qui, a priori, pourraient sembler un peu figées entre l'art et le soin ou simplement le soin entre ces murs et dans le cadre de la cure. Et voilà, donc pour moi, c'est la relation et le lien est vraiment la partie centrale.
Je profite de rebondir sur ces deux éléments, la relation et le soin, pour faire lien avec cette chose dont tu parlais tout à l'heure, qui est très précieuse, je trouve, Marie, hors antenne, mais on en parle du coup en antenne, qui est celle de s'enrichir mutuellement, donc de rencontre. Du coup, ça passe par au départ une rencontre. Tu disais que tu étais accompagnatrice ou facilitatrice. Je trouve que ça vient rebondir un petit peu sur ce que tu parlais de cette création de liens. Comment tu l'as envisagé, cette place-là de facilitatrice, d'accompagnatrice, c'est un terme qui est venu à un moment, j'imagine. On a quand même des places qu'on doit s'auto-assigner ou qu'on s'assigne ou que l'autre nous assigne. Comment tu pourrais nous expliquer comment ça s'est justement créé un petit peu ça, que ça s'est vraiment inscrit dans le concret ?
Alors le terme d'accompagnement, je pense que c'est un terme que j'aime beaucoup depuis un certain moment et qui définit assez précisément ce que je pense faire lorsque j'anime des ateliers avec des publics. C'est que pour moi, un public, il se fait part avec, pour des personnes qui participent. Et ce truc-là ne peut pas venir uniquement de moi, sinon c'est pas intéressant, il doit se faire avec les personnes. Et on fait ensemble, on chemine ensemble et on peut... Moi, j'apporte des idées, bien évidemment, et les personnes qui participent viennent pour fabriquer des choses ensemble. Mais je me positionne pas dans un rôle de supérieur avec une transmission descendante. Il peut y avoir des moments descendants, mais il y a des moments aussi de pratique et de co-création. Et je crois que ce qui m'a énormément marqué, c'est... depuis, en fait, quand j'étais en philo à Paris 8, j'avais lu Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Et c'est une lecture qui m'a vraiment marquée et qui nourrit encore et toujours la manière dont la transmission peut se faire. On peut transmettre des choses qu'on ne connaît pas et recevoir des choses dont on n'avait pas conscience. Et bon, c'est une lecture qui m'avait beaucoup marquée. Et j'aime bien essayer de continuer de réfléchir à ça. Et facilitatrice, ce mot-là, il est venu lorsque, avec Fanny, ma collègue de Station Station, mais qui fait aussi partie de Art Lab, de Brut Pop, on a mené une formation pratique radiophonique documentaire à main d'œuvre. Et on se demandait comment nommer ce qu'on allait faire et comment on allait se nommer. Et c'est Florence Chérier de main d'œuvre qui nous avait donné ce terme de facilitatrice, qu'on a tout de suite beaucoup aimé. On trouvait que ça répondait bien à ce qu'on avait envie de faire et comment on avait envie de se nommer. Parce qu'on n'avait pas envie de se nommer enseignante et de nommer les personnes qui participaient stagiaires. On trouvait que c'était pas OK. Donc c'était facilitatrice, ça nous allait bien.
Oui, oui. je rejoins complètement ce que tu dis parce que c'est vrai que nous, dans nos projets, alors je dis dans nos projets parce qu'en fait, dans le projet 57 Mélosine, comme une origine en fait. C'est-à-dire qu'on y est allé un petit peu comme ça. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. évidemment, on avait de l'expérience, un peu comme toi, dans ce que tu dis, Marie, je te tutoie.
Bien sûr.
de donner des ateliers, enfin, d'avoir eu des, peut-être des choses un petit peu comme ça, déjà de transmission. Et nous aussi, on n'était pas très à l'aise avec cette question-là, de la transmission du pédagogue, voilà, cette chose-là, de celui qui accompagne vers un savoir, je ne sais pas quoi. Pour nous, c'était surtout très important de créer des espaces-temps dans lesquels des expériences se faisaient. Et chacun de nous, je dis nous, on était sept. Il n'y a pas que Lily et moi, en fait, on a eu plusieurs artistes qui ont collaboré, compositeurs, auteurs, plasticiennes, voilà, venus de différents pays d'Europe, hein, d'Allemagne, de Belgique. On a convoqué vraiment à des moments particuliers qu'on appelait les résidences en immersion. On venait, on transformait le centre de soins en lieu d'art et où jamais il était question de venir enseigner. En fait, à la personne, comment peindre ou comment chanter ou comment danser, mais de partir de ce qui était présent, en fait, des corps là, des corps qui ont un savoir, une histoire, même si par ailleurs, dans les EHPAD, évidemment, c'était des personnes âgées, on a travaillé aussi avec des autistes, mais là, pour la genèse, qui perdait cette mémoire progressivement, en fait, ou en tout cas, qui s'altérait, qui se transformait. Et s'appuyer sur ça pour créer quelque chose de singulier. Et avec eux, je le disais tout à l'heure, on a inventé une langue qu'on a mis sur des cartes. On a créé une constitution. Et c'est eux qui l'ont créée avec nous. On n'a jamais dit, OK, une constitution, c'est comme ça. Il faut qu'elle soit écrite de cette manière. Et il faut dire ça plutôt que ça. Voilà. Donc ça toujours été le geste, en fait, il est dans une idée de faire avec, faire avec ce qui est présent.
Faire avec ce qui est présent et faire l'expérience du sensible, du moment, du corps et voilà, de ce qui se passe à ce moment-là.
Tout à fait.
Sans indication.
Sans indication.
Moi, je vais donner juste une petite indication, c'est de mettre la musique CJ, le rêve de CJ, s'il te plaît, Joseph.
Sur Radio Campus Paris, toujours sur l'émission Gestalt.
En compagnie de Marie, de Caroline et de Gaëtan, on parle aujourd'hui de projets artistiques et qu'on peut considérer comme inclusifs et de l'accessibilité des lieux culturels. J'aime pas trop utiliser certains termes sans vraiment qu'on puisse y mettre quelque chose derrière précisément. Là, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'il y avait des espaces de rencontres qui se faisaient en dehors d'institutions culturelles, dans des espaces dits de soins pour certains. Pour ce qui est de ce qui vraiment précisément a été dit avant la pause musicale, on parlait d'expérience du sensible, de composer avec la rencontre de l'autre et de s'auto-enrichir à ce niveau-là, que les choses se construisent sans forcément de place ni de hiérarchie. Est-ce que, Caroline, c'est quelque chose qui te fait rebondir sur tes idées de travail, de recherche, sur des courants théoriques précis ?
Alors, à Paris 8, là où je travaille, on est dans les sciences de l'éducation, et derrière les sciences de l'éducation, il y a un mouvement très fort qui remonte à l'après-guerre, qui s'appelle la psychanalyse institutionnelle. Et à mes yeux, ce que nous raconte Marie et ce que nous raconte Gaëtan depuis tout à l'heure, ça puise beaucoup dans cette origine-là. Donc la psychanalyse institutionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'initiative de médecins, qui étaient souvent des psychiatres ou des psychanalystes, après-guerre, au sein de cliniques de soins, donc des cliniques psychiatriques en particulier, ont proposé des tentatives totalement expérimentales pour appréhender le soin et l'approche de la folie, puisque c'était la question qu'ils abordaient, de manière totalement différente. Et ça les a amenés à construire des communautés, donc là on rebondit sur ce dont nous parle Gaëtan, qui décloisonnait totalement les rapports habituels de la société. C'est-à-dire, il disait, il me semble, un des fondateurs de la psychanalyse institutionnelle, François Tosquelles, qui était un Catalan qui est venu se réfugier en France après le régime de Franco, il disait, si vous traitez si vous êtes un soignant et que vous vous comportez comme un soignant, bah, le fou va se comporter comme un fou. Donc en fait, l'idée, c'est de déjà autoriser les personnes à ne pas être cloisonnées dans une identité qui les figerait, en fait, et leur donner des opportunités de se déplacer, déjà physiquement, puisque dans l'institution de soins, le grand souci, c'est l'enfermement, donc c'est d'autoriser le mouvement. Donc là, on revient aussi à des choses qui ont été dites, et de les faire contribuer à la société, c'est-à-dire si la société c'est cette clinique, et ben de participer à la vie de la clinique et pas de considérer qu'ils sont là pour subir un traitement, une cure, et de rentrer du coup dans une autre dimension qui est abordée dans l'émission aujourd'hui, qui est le care.
Ce que j'aimerais justement comprendre par rapport à ton vécu, ton expérience, c'est que il y a eu, j'ai l'impression, des mouvements qui se sont opérés aussi, toi, avec ton rapport aux objets d'art et à la création artistique, et tu as vu comme des évolutions dans les processus artistiques en lien avec ces théories-là, justement, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un moment qui a fait déclic? Comment tu pourrais exprimer qu'aujourd'hui tu as le sentiment justement que les deux peuvent se joindre et que ces écrits sont très actuels?
Alors moi, je suis arrivée à ce sujet parce que une artiste photographe avec qui j'ai travaillé dans le cadre de ma maison d'édition m'a apporté un travail sur l'art et le soin, et donc elle était en résidence pendant plusieurs années dans un institut psychiatrique pour les adolescents, et elle a mené un projet qui a amené à une série photographique, mais en fait beaucoup plus que ça, et moi, en tant qu'éditrice, j'étais là pour l'accompagner à la transmission de son projet, justement. Ça nous a amené à travailler avec l'institution de soins et avec le psychiatre qui l'avait invité à venir participer à la vie collective dans cette institution particulière. Et pour moi, en fait, j'ai découvert à ce moment-là une autre façon d'appréhender l'art qui ne se résumait pas à l'objet d'art, à la photographie dans le cas de Lucie Pastureau, mais qui était en fait de l'expérientiel, de l'expérience du vécu. Et là, sur le plan théorique, je peux vous amener vers John Dewey, qui a écrit un livre de référence qui s'appelle « L'art comme expérience ». Et pour moi, on est dans le moment présent, la création du relationnel, le soin en fait qui débute par la coprésence des personnes et l'ouverture de possible dans ce cadre de coprésence.
L'ouverture de possible est-elle restreinte par les institutions dans lesquelles on travaille? J'en reviens à ces questions en tant qu'artiste Gaëtan. Y a-t-il des enjeux, des leviers qui sont présents quand on vient proposer, ou en tout cas dans la rencontre avec des publics hors institutions culturelles?
Alors, c'est vrai que sur des projets un peu au long cours en plus, hein, parce que du coup c'était ça le projet. Je reviens toujours à celui-là parce que c'est quand même celui-ci qui traite de cette question-là de l'arrêt du soin et qui me semble assez assez intéressant là. Les dispositifs tels qu'ils existent sont souvent annuels. En fait, c'est une année, on fait un projet, puis on passe à autre chose. Nous, très vite, on s'est dit, non, mais en fait, ça, il faut que ça dure des années. Enfin, la première année, on ne le savait pas trop. Et puis, forcément, au fil de la rencontre, on s'est dit, non, mais il faut qu'on rencontre vraiment. Si l'idée, c'est de réfléchir la communauté ne se crée pas en une année, elle se crée en un temps bien plus important. Et donc, il a fallu inventer quelque chose. C'était en 2017. À l'époque, il y avait un dispositif qui existait, qui existe toujours, qui s'appelle Culture Santé, qui était renouvelable, mais il fallait un peu jouer avec les termes, puisque l'idée c'était de proposer quand même une sorte d'augmentation du projet, une transformation. On sait comment ça se passe parfois dans les demandes de subventions ou de soutien. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'est continuer la même chose en fait. on tenait une expérience forte, une rencontre très puissante. Lily disait souvent et dit souvent quand on lui pose la question, c'est devenu nos amis. Les amis, il faut pouvoir entretenir ce lien d'amitié, donc être présent avec eux, pouvoir tenir le cadre de la réalisation du projet. Donc il a fallu jouer un petit peu aux pirates parfois, pour le dire un peu comme ça. Mais avec l'accord en fait des partenaires. Voilà, donc ça c'était un petit peu une chose, et ensuite au sein de l'institution même de soins, moi j'ai en image la première rencontre en fait, la première réunion que j'ai faite avec, le corps soignant et médical, hein. Plein de blouses blanches tout autour de la table, moi avec ma petite proposition de projet autour des communautés de la mémoire, et tout le monde qui te regarde et qui te dit mais en fait c'est super, mais nous on n'a pas le temps en fait, enfin juste... on est sous l'eau, je veux dire, là, il y a madame machin qui est juste à temps pour un soin. Enfin, voilà. C'était bien avant le scandale dans les EHPAD, hein, je vous parle de ça. Voilà. Et là, il y a une personne qui a levé la main, qui était psychomotricienne, Aurélie Hector, et qui nous a dit, non, mais moi, en fait, ça, il faut vraiment que ça se fasse. En fait, ça, c'est un projet comme ça, dans un lieu comme le nôtre. C'était à l'EHPAD des Floralies, à Bagnolet, qui est un très grand EHPAD avec plusieurs niveaux. Voilà. C'est un levier fort, justement, tu parlais de levier, pour transformer ce qui se passe dans nos lieux et en fait qui se passe pas en fait, parce que du coup on soigne plus trop. À l'époque on faisait tenir les corps, quoi. C'est très violent, mais c'était les réels, hein. L'histoire le prouve d'ailleurs. Voilà, donc du coup c'était c'est des alliances fines en fait entre des personnes qui comprennent ce qu'on fait ou qui comprennent là où on veut aller. Et il s'agit d'arriver à les garder avec nous et en même temps de les faire les faire continuer à entretenir le travail, parce que du coup pour Aurélie nous on était là une fois toutes les deux semaines, tout le reste du temps on n'était pas là.
L'entretien du travail passe par l'entretien de la relation aussi avec eux et qui se renouvelle, donc voilà, entre deux espaces distincts et celui du corps médical qui est débordé, j'imagine bien qu'il y a cet enjeu-là de pouvoir maintenir un lien. Moi, je pense aussi à l'inverse, à la spécificité que tu as, Marie, de travailler dans un espace, lui, culturel, qui est un tiers-lieu. Alors, peut-être qu'on peut très rapidement définir ce qu'est un tiers-lieu aussi pour un petit peu mieux se représenter ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un tiers-lieu déjà ?
Oh oui, alors je suis pas du tout une grande théoricienne, etc. Je pense qu'il y a des personnes à la station qui pourraient beaucoup mieux définir que moi. Mais l'idée en fait de la station et des tiers-lieux, ce sont d'anciennes friches industrielles réhabilitées en lieux culturels, des lieux qui vivent une nouvelle vie en fait.
Est-ce que justement pouvoir travailler dans ces lieux-là permet d'entretenir des liens plus facilement avec des projets? Est-ce que c'est une ouverture qu'on fantasme sur la ville qui est quelque chose qu'on s'imagine et qui n'est pas concret, qui n'est pas vrai? Ou c'est vraiment une réelle ouverture où on peut justement faire intervenir différents acteurs et faire se côtoyer différents publics au sein d'un tiers-lieu? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous accueillez à la radio, par exemple, l'IME Alternance, ou tu vas directement là-bas?
Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a deux spécificités. Il y a est-ce que la station est en lien avec le territoire et en lien avec en fait ses voisins, voisines, etc. Ça, je pense que c'est un challenge et que ça le reste et que c'est très compliqué et que les personnes qui viennent au concert à la station, profiter de la musique, etc., ne sont pas les personnes qui vivent à côté. Et ça pose des vraies questions, en fait, les tiers-lieux et la transition urbaine, etc. Ça, c'est un sujet, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la station pour essayer de briser ces trucs-là de rapport de territoire, en fait, et faire en sorte que les personnes qui vivent à côté, nous, on puisse nouer des liens avec elles, mais je pense que c'est quelque chose qui doit venir du lieu et de nous. Et c'est quelque chose qu'on met en place notamment avec la radio, en menant des projets avec des personnes qui résident à la cité Charles-Hermite, ouais, avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée, qui maintenant viennent à la station faire de la cuisine. Ça, c'est le résultat d'un atelier radio-cuisine qu'on a mené depuis 2021.
Ouais, super. Donc, enfin, voilà. Il y a un lien aussi. Ouais.
Il y a des liens qui finissent par se créer, mais c'est un travail au long cours. Ça a pris 2 ans. Par rapport à l'IME, c'est donc l'IME Maison Personnage Alternance Paris est un IME situé dans le 17e à Paris et vient une fois par mois le mercredi à la station et on fait l'atelier dans le studio de la radio. Et ce truc-là du mouvement, il est très important parce que ça pose la question de sortir en fait et d'aller vraiment. On fait un atelier radio et on va dans une radio pour le faire et on est vraiment en condition. Et ça travaille un rapport des jeunes au lieu qui fait que y a régulièrement des événements qui sont organisés à la station en lien avec le papotin. Il y a eu le concert d'Astéréotypie. Là, récemment, il y a eu le festival Futur Composé avec, c'est l'association Futur Composé qui a organisé le festival Colis Suspect. Et il y avait une des jeunes qui participe à l'atelier radio, qui a donc l'habitude de venir depuis 6 mois, une fois par mois à la station, qui était, comme un poisson dans l'eau à la station, à regarder les concerts, etc., alors qu'elle est plutôt normalement dans une réserve, etc. Et là, elle semblait épanouie. Et je crois que ça permet ça, en fait. Ça rend possible ça, puisque ça fait partie du quotidien. Du quotidien une fois par mois, mais il y a une forme de quotidienneté, ouais.
Et est-ce que il faut casser aussi en même temps ce mouvement, parce qu'il y a une quotidienneté, donc il y a du mouvement, il y a une quotidienneté qui s'installe et des repères qui se créent. Est-ce que ça vous paraît important de à nouveau recréer du mouvement à chaque fois continuellement? Je me tourne un petit peu vers toi, Caroline, à ce sujet. Est-ce que voilà, dans ce que tu as pu observer, la création du lien a l'air de se faire assez facilement, justement grâce à ce changement d'espace et ces mouvements. Mais est-ce que il faut assez facilement, rapidement casser le mouvement?
Alors, ce que je vais dire n'engage que moi, parce que je suis sûre que Gaëtan et Marie auront d'autres remarques, mais moi j'ai l'impression que c'est une des spécificités du soin et des personnes fragiles, du coup, qui sont concernées par l'apport du travail artistique qui leur est proposé, c'est qu'on ne peut pas trop rejouer les enjeux en permanence, et que, comme le disait Gaëtan, déjà créer un lien, une connivence, une confiance prend beaucoup, beaucoup de temps. Et qu'il faut construire, capitaliser sur ces choses, c'est ce lien qui a été créé, en co-construisant des façons de faire qui ont été validées, qui sont bien vécues, qui sont reconnues, connues, sécurisantes du coup, et qui permettent ce décloisonnement dont on parlait tout à l'heure. Donc l'artiste, déjà, quand il vient intervenir dans un endroit avec des personnes en situation de fragilité, quelle qu'elle soit, amène vraiment une rupture très forte. Et d'ailleurs, pour les soignants ou les personnes qui peuvent s'occuper de ces lieux-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une constance dans l'apport de l'artiste et dans ce travail de confiance et ensuite d'ouverture. Mais c'est peut-être les personnes en face qui vont apporter, qui vont donner le signal à l'artiste que, ok, on peut aller un peu plus loin.
Oui, je me permets de revenir. C'est intéressant de dire ça comme ça, parce que du coup, c'est vrai que vis-à-vis de notre expérience, ce projet n'aurait jamais pu se tenir si on n'avait pas eu des alliés vraiment très forts dans chacun de ces lieux. Je veux dire, le flux, le fonctionnement de ces espaces-là sont tellement institués, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça des institutions de soins, que finalement pouvoir créer, proposer un pas de côté, en fait, c'est ça demande beaucoup à ces personnes, en fait, simplement. Ouais. Donc voilà, mais je tiens quand même à le dire, nous, notre projet, il a toujours été pensé à un triple endroit. Forcément, à l'endroit des personnes qui participaient, des personnes accueillies. Nous, on parlait pas de patients, d'ailleurs. Hein, on parlait de participants et participantes, en fait. Voilà. Mais aussi des soignants. Et ça, dès le début, on l'a dit, en fait, le corps soignant, le corps médical, est un troisième élément qui participe de la même manière, enfin, autant qu'il le peut. Et le troisième élément, c'était les artistes. En fait, nous aussi, on se déplaçait dans notre façon de faire. Si je me retrouve avec une communauté d'artistes dans un lieu d'art, ce sera très différent. Je ne ferai pas du tout de la même manière. Et là, il était très important de pouvoir se déplacer, en fait, dans la façon de faire les choses. Voilà.
On va parler de la manière dont on se déplace, mais aussi de la manière dont on propose une diffusion et la réception des œuvres. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Avant ça, on va faire une pause musicale avec France Sauvage, faire les dents repousser.
Faire les dents repousser, faire les dents repousser, faire les dents repousser, faire les dents repousser. Jardin, t'as un temps qui bâche tes jardins, sans eux avec quelques caresses aussi, quelques odeurs aussi. Du visage, votre dans le corps, sans les magasins, pas de suite des bars, sans les magasins, pas de suite des bars, sans les magasins, pas de suite des bars. Dans les bars, dans les reins, dans les seins, dans la mer.
L'antenne pour cette dernière partie d'émission où on va parler de la spécificité de l'espace comme étant un espace de diffusion, un espace qui permet du coup la réception. Comment on se place quand justement on est au cœur de projets collaboratifs multidisciplinaires avec des personnes en situation de fragilité ou en tout cas qui ne sont pas habituées forcément à être sollicité ou à emprunter des murs extérieurs tels que des tiers-lieux. Comment on diffuse aussi les projets sur lesquels on a travaillé en invitant les personnes avec qui on a travaillé. J'ai une question avec une image précise en tête de celle qui m'amène à te poser cette question. Gaëtan, cette phrase n'a aucun sens. Mmh. Comment on invite des personnes avec qui on a travaillé en EHPAD sur plusieurs mois, même années, comment on les invite à faire une restitution dans un tiers-lieu qui s'appelle le 6B, qui est quand même aussi assez vif et intéressant comme espace. Je veux dire, c'est quand même pas commun, même si ça se fait de plus en plus. Voilà, il y a cette question de la diffusion, d'aller au bout du processus. On a commencé par la création, maintenant la diffusion. Le choix de l'espace a son importance?
Oui, merci pour cette question. Il a beaucoup d'importance. Nous, dès le départ, en fait, dans notre projet, l'idée c'était de déplacer en fait l'endroit où pouvait se faire l'art, hein, je mets les guillemets, déjà de le placer à l'endroit de la relation, c'est-à-dire le projet, c'est l'œuvre. Ce qu'on y fait, c'est l'œuvre et pas les objets. Les objets, c'est une archive, c'est une mémoire, c'est la photo de famille qu'on a sur la cheminée, quoi, et qu'on regarde de temps en temps, mais c'est pas l'œuvre. Et donc, pour la restitution avec Lily, on s'est dit qu'il fallait que ce soit ça, que, en fait, la restitution soit un moment. Soit un moment, un espace-temps dans lequel les gens qui viennent sont pas juste là pour regarder quelque chose qui aurait été fait il y a quelque temps, mais le vivre pleinement. Et toutes les restitutions, parce que du coup, tout au fil du projet, il y a eu ces semaines en immersion dont je parlais tout à l'heure, donc à chaque fin de semaine en immersion, on avait une grande fête qui venait un peu souligner une thématique de la communauté, donc la fête, donc la grande discussion, le repas, enfin voilà. Et il s'agissait pour cette restitution de pouvoir tout mettre ensemble, de créer comme une sorte de grande maison qui accueillerait cette grande communauté qui serait bien au-delà de les personnes qui ont participé au projet, voilà. Et de les faire se rencontrer. Là, je peux parler un tout petit peu aussi de le dernier temps, en fait, qui était l'année, en gros, 5. Enfin, voilà, c'était 4 dans la durée du projet, mais 5 en temps. Où on a travaillé avec des autistes, des jeunes autistes, accueillis dans un centre juste à côté du 6B. Là aussi, c'est important pour la réponse à cette question. Le silence des justes, et où, en fait, on a voulu faire se rencontrer comme possible, enfin, comme il était possible, toute cette population. Je dis 5 ans, il faut bien se rendre compte que les premières personnes avec qui on a travaillé, on était dans un EHPAD. Donc elles ont une moyenne d'âge de 70-80 ans. Donc clairement, des personnes sont mortes, en fait. On a accompagné même des personnes dans la mort à un moment donné, au fil de ce projet-là. Donc il s'agissait aussi de pouvoir garder ça, sans en faire une sorte de chose lourde, mais, et d'inviter les personnes âgées et ces jeunes autistes juste à côté à vivre un moment particulier tous ensemble, ayant participé à la construction de cette communauté qu'on appelait les communautés du futur, et qu'on appelle encore comme ça. Le lieu, il était un peu évident pour nous parce qu'on y était en résidence depuis plusieurs années maintenant. On avait envie que ça se fasse là parce que quelque part, dans l'ADN d'un tiers-lieu, il y a cette idée que ceux qui font le lieu, c'est ceux qui l'habitent, donc ceux qui le traversent en fait, et pas du tout une direction extérieure qui te dit « Ah ok, cette année on va travailler sur tel sujet et l'année d'après sur celui-là ». Le tiers-lieu, c'est presque un corps quoi, vivant et qui, avec ses éléments à l'intérieur, vit selon les nécessités et aussi les désirs à l'intérieur. Et donc le 6B fonctionne vraiment comme ça. Il n'y a pas de direction, par exemple, le 6B. On travaille collectivement à la décision des choses qui y sont faites. Et ça ressemblait beaucoup, par ailleurs, à la constitution qui avait été écrite par ces personnes tout au long de ces années, et au désir un petit peu de retrouver quelque chose qu'on avait pu vivre nous en tant qu'artistes aussi, un espace de liberté comme ça où plein de gens se croisent, où par ailleurs on va avoir la personne d'en bas qui habite et qui va débarquer, et où le résident du 6B, du 6e qui vient par hasard parce qu'il a besoin de quelque chose et il se trouve il y a l'expo là, et où les institutionnels qui nous avaient accompagnés et ces personnes âgées. Ensuite, pour les faire venir, ouais, ça c'était une autre paire de manches. Mais en fait, on a, encore une fois, merci à ces relais dans les centres de soins. Aurélie et Simon Tourneur pour la résidence Marie, qui est un deuxième centre avec lequel on a travaillé, qui ont répondu tout de suite. Alors Aurélie avait changé de poste, elle était ailleurs, elle ne pouvait pas venir, mais Simon nous a dit tout de suite, mais moi je viens, on prend le bus et on vient. Quand il y a le vernissage, on arrive, quoi. Et voilà, en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça.
Il y a l'importance de faire habiter cet espace par les résidents eux-mêmes, et on a l'impression que c'est presque un corps organique qui fait partie lui-même du projet. À la fois, il y a cette notion de célébration, de fête. Ça me fait penser notamment à cette notion qui a été bien évoqué en dernière partie de livre par Olivier Brisson, qui est psychomotricien et qui a dernièrement sorti un livre qui s'appelle « Pour une psychiatrie indisciplinée » et qui vraiment, je ne vais pas spoiler, mais qui met l'accent en tout cas sur cette question de célébration, de fête, au sens vraiment large, hein, tel qu'on veut l'entendre. Est-ce que dans ton processus, Marie, aussi, d'accompagnement, il y a cette importance-là aussi de restituer. Comment tu le vois? Comment tu veux l'accompagner, cette restitution, justement, sur tes projets, notamment radio?
Alors, par rapport au cycle d'ateliers qui est mené avec l'IME Maison Personnage Alternance, comme on est une radio, il y a une forme de restitution un peu induite par la production d'une émission qu'on va diffuser deux jours après. Il y a un créneau qui est dédié à la radio pour ça, c'est le vendredi à 17h après l'atelier qui a eu lieu le mercredi. On a ouvert un petit compte Instagram sur lequel on pose des photos en privé pour préserver les jeunes, mais on peut montrer un peu les coulisses, etc. On a une page sur le site internet, donc il y a quelque chose qui fait que cette émission-là, elle existe sur Station Station comme l'ensemble des autres émissions. En revanche, le truc de fête dont tu parles me fait penser à ce que j'ai vécu ce matin. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en résidence avec deux autres collègues de la radio et de Brut Pop, Alejandro et Max-Antoine. On est en résidence à Vaux-en-Velin pour mener un cycle de documentation, pour produire du documentaire sonore avec des jeunes issus du DIM IFARGE de Vaux-en-Velin. Donc DIM, c'est dispositif médico-éducatif. On mène ces ateliers en dehors de l'IME. On est à la médiathèque Atelier Léonard de Vinci de Vaux-en-Velin, qui est la nouvelle médiathèque qui est ouverte depuis assez peu. Mmh. Et ce matin, c'était la fête du DIM et on a fait écouter des étapes de travail. Et c'était le feu. Enfin, ça a vraiment trop plu. Les gens sont venus écouter. On va refaire une autre restitution comme ça sous forme de fête, car on a été invité par le Périscope à animer une soirée de radio. Et on s'est dit, mais le Périscope, c'est Lyon. Il y a Vaux-en-Velin. Enfin, on va pas faire du station-station parisien. Non, on va prendre Vaux-en-Velin et ils vont venir. Enfin voilà, on va créer ce truc-là. Et la dernière fête, ce sera lors des journées du matrimoine à Lyon. En septembre. Donc il va y avoir 3 temps un peu festifs comme ça, où on donne à entendre des étapes de travail, des choses plus ou moins abouties, plus ou moins montées, mais on partage, on discute, il y a une présentation. Et ce matin, alors, on était sur un temps périscolaire, donc les jeunes ne sont pas tous venus, mais il y a un des jeunes qui participe à l'atelier qui est venu ce matin, et on lui a demandé de présenter... de parler de ce qu'il faisait, etc. Et puis il a dit, mais oui, mais voyez, pour interviewer des gens, on prend le micro, on fait comme ça, on lui a donné le zoom, et il s'est mis à enseigner, en fait.
C'est génial.
Ce qu'on travaillait depuis un mois et demi, bah, maintenant, il le présente, et nous, on n'avait rien à faire, on croisait les bras, et hop.
Donc la restitution est suivie, en fait, d'une médiation qui continue, en fait, d'un lien qui continue, en fait. Donc il n'y a même pas vraiment de finalité, ça... Malgré tout, ça continue, en fait.
La finalité, c'est le calendrier qu'on nous a donné. Ce qui est dommage, parce que d'ailleurs, ce jeune, ce matin, nous a demandé « Mais est-ce que vous revenez l'année prochaine ?» Et bon, le calendrier fait que, en fait, il y a un début et une fin. Et dans les projets qu'on mène avec des calendriers précis, c'est important de penser à rappeler la temporalité, notamment quand on mène des projets en EHPAD ou en résidence autonomie, avec des personnes dont on fait partie très intensément du quotidien, même si c'est qu'une fois par semaine, mais on est présent, voilà. Et il faut penser à ces temps de dire, à un moment donné, il va y avoir une fin. Et comment on se dit au revoir, etc. Et la fête, c'est un bon outil pour ça.
Ce serait génial qu'on puisse finir cette émission sur cette phrase-là, mais il reste 3 minutes et j'ai une question ultime pour Caroline. Justement, dans ce travail de recherche que tu fais des évolutions des processus artistiques et créatifs en lien avec le CAIR, y a-t-il un moment, peut-être la question à se poser, donc tu as parlé de la nécessité du lien, de la rencontre, du sensible, mais il y a aussi ce qui nous entoure, les espaces, l'architecture. Y a-t-il à se poser la question de l'architecture comme élément soutenant, suffisamment soutenant pour permettre ces rencontres? Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on peut se poser la question de aussi comment on peut, dans la rencontre artistique, participer à la création même de l'espace architectural. Est-ce que c'est une piste ?
Non, c'est une question qui n'est pas évidente. Je n'ai pas vraiment de billes pour répondre à ça, parce que je n'ai pas d'exemple ou d'expérience qui serait liée à ce sujet-là. L'expérience que j'ai vécue, moi aussi, au 6B, quand Gaëtan a fait le vernissage de son exposition, m'a amené à expérimenter, à vivre moi aussi l'expérience artistique, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à la table du banquet à dîner avec, alors j'ai oublié son prénom, mais une femme âgée de plus de 80 ans, Jeanne, qui m'a susurré un moment à l'oreille que c'était son anniversaire ce jour-là. Et donc, je peux voir toute la puissance que la mise en espace, en fait, de la création peut avoir et déterminante au moment de la restitution. Mais sur la question de l'architecture, je ne me sens pas habilitée pour répondre.
Peut-être qu'on fera une prochaine émission là-dessus et puis on viendra à plusieurs pour essayer de voir comment justement l'architecture peut être un espace à co-penser de manière multidisciplinaire, dans un espace aussi, pourquoi pas, de laboratoire et de recherche avec et pour les personnes concernées. Je voulais vraiment vous remercier pour votre présence ce soir, parce que c'est assez hallucinant la manière dont vous arrivez à la fois à articuler toute la richesse de ce que vous faites et avec au final énormément de simplicité. Donc merci pour ça, pour votre présence. Merci à Joseph pour cette dernière émission de la saison, d'avoir assuré avec cette chaleur, et on va continuer la Pride aussi qui a commencé en début d'après-midi. Quant à nous, on va se retrouver à la rentrée prochaine, a priori pas de date pour l'instant puisqu'on verra, mais septembre prochain, ça c'est sûr. À très vite.
Merci.